Chapitre 2. Il faut des guerres civiles pour faire éclairer des caractères semblables, s'écria un avocat célèbre. Ces aventures où l'âme se déploie dans toute sa vigueur ne se rencontrent jamais dans la vie tranquille telle que la constitue notre civilisation actuelle, si pâle, si décrépite. Encore la civilisation, répliqua un médecin, votre mot est placé. Depuis quelque temps, poète, écrivain, peintre, tout le monde est possédé d'une singulière manie. Notre société, selon ces gens-là, nos mœurs, tout se décompose et rend le dernier soupir. Nous vivons morts, nous nous portons à merveille dans une agonie perpétuelle et sans nous en apercevoir que nous sommes en putréfaction. Enfin, à les entendre, nous n'avons ni loi, ni mœurs, ni physionomie, parce que nous sommes sans croyance. Il me semble cependant que, d'abord, nous avons tous foi en l'argent, et depuis que les hommes se sont attroupés en nations, l'argent a été une religion universelle, un culte éternel. Ensuite, le monde actuel ne va pas mal du tout. Pour quelques gens blasés qui regrettent de ne pas avoir tué une femme ou deux, il se rencontre bon nombre de gens passionnés qui aiment sincèrement. Pour n'être pas scandaleux, l'amour se continue assez bien et ne laisse guère chômer que les vieilles filles et encore. Bref, les existences sont tout aussi dramatiques qu'en temps de paix qu'en temps de trouble. Je vous remercie de votre guerre civile. Moi, j'ai précisément assez de rente sur le grand livre pour aimer cette vie étroite, l'existence avec les soies, les cachemires, les Tilbury, les peintures sur verre, les porcelaines et toutes ces petites merveilles qui annoncent la dégénérescence d'une civilisation. Le docteur a raison, dit une dame. Il y a des situations secrètes de la vie la plus vulgaire en apparence qui peuvent comporter des aventures tout aussi intéressantes que celles de l'évasion. Certes, reprit le docteur, et si je vous racontais une des premières consultations que... Racontez, racontez ! Ce fut un cri général dont le docteur fut très flatté. Oh, je n'ai pas la prétention de vous intéresser autant que monsieur. Connu, dit un peintre. Assez, dites, cria-t-on de toutes parts. Un soir, dit-il, après avoir laissé échapper un geste de modestie et un sourire, j'allais me coucher, fatigué de ces courses énormes que nous autres pauvres médecins faisons à pied presque pour l'amour de Dieu pendant les premiers jours de notre carrière, lorsque ma vieille servante vint me dire qu'une dame désirait me parler. Je répondis par un signe et sur le champ l'inconnue entra dans mon cabinet. Je la fis asseoir au coin de ma cheminée et restai vis-à-vis d'elle. À l'autre coin, en examinant avec cette curiosité physiologique particulière aux gens de notre profession, quand ils prennent la science en amour. Je n'ai pas souvenance d'avoir rencontré dans le cours de ma vie une femme qui m'ait aussi fortement impressionné que je le fus par cette dame. Elle était jeune, simplement mise, médiocrement belle cependant, mais admirablement bien faite. Elle avait une taille très cambrée, un teint à éblouir et ses cheveux noirs très abondants. C'était une figure méridionale, toute empreinte de passion dont les traits avaient peu de régularité, beaucoup de bizarrerie même, et qui dirait son plus grand charme de la physionomie. Néanmoins, ses yeux vifs avaient une expression de tristesse qui en désuisait l'éclat. Elle me regardait avec une sorte d'inquiétude, et je fus extrêmement intéressé par l'hésitation que trahirent ses premières paroles et ses manières. Elle allait faire violence à sa pudeur, et j'attendais une de ces confidences vulgaires auxquelles nous sommes habitués, mais qui n'en sont pas moins honteuses, pour les malades, lorsque, se levant avec brusquerie, elle me dit « Monsieur, il est fort inutile que je vous instruise du hasard auquel j'ai dû de connaître votre nom, votre caractère et votre talent. Ah, son accent, je reconnus une Marseillaise. Je suis, reprit-elle, mariée depuis 3 mois, monsieur de chef d'escadron dans les grenadiers de la garde. C'est un homme violent et d'une jalousie de tigre. Depuis 6 mois, je suis grosse. En prononçant cette phrase à voix basse, elle eut peine à dissimuler une contraction nerveuse qui crispa son larynx. J'appartiens, reprit-elle en continuant, à l'une des premières familles de Marseille, madame et madame de. Vous comprenez, dit le docteur en s'interrompant et nous regardant à la ronde, que je ne puis pas vous dire les noms. J'ai 18 ans, monsieur, dit-elle. J'étais promise depuis 2 ans à l'un de mes cousins, jeune homme riche et fort aimable, mais appartenant à une famille exclusivement commerçante, la famille de ma mère. Nous nous aimions beaucoup. Il y a 8 mois, monsieur de, mon mari, vint à Marseille. Il est neveu de l'ancienne duchesse de et favori de l'empereur. Il est promis à quelque haute fortune militaire. Tout cela séduisit mon père. Malgré mon inclination connue, mon mariage avec le comte de fut décidé. Ce manque de foi brouilla les deux familles. Mon père, redoutant la violence du caractère marseillais, craignit quelque malheur. Il voulut conclure cette affaire à Paris, où se trouvait la famille de monsieur de. Alors nous partîmes. À la seconde couchée, au milieu de la nuit, je fus réveillé par la voix de mon cousin et je vis sa tête auprès de la mienne. Le lit où couchaient mon père et ma mère était à 3 pas du mien. Rien ne l'avait arrêté. Si mon père s'était réveillé, il lui aurait brûlé la cervelle. Je l'aimais, c'est tout vous dire. Elle baissa les yeux et soupira. J'ai souvent entendu les sons creux qui sortent de la poitrine des agonisants, mais j'avoue que ce soupir de femme, ce repentir poignant mêlé de résignation, cette terreur produite par un moment de plaisir dont le souvenir semblait briller dans les yeux de la jeune Marseillaise, m'ont pour ainsi dire aguerri tout à coup aux expressions les plus vives de la souffrance. Il y a des jours où j'entends encore ce soupir, et il me donne toujours une sensation de froid intérieur lorsque la mémoire est fidèle. Dans 3 jours, reprit-elle en levant les yeux sur moi, mon mari revient d'Allemagne, il me sera impossible de lui cacher l'état dans lequel je suis. Il me tuera, monsieur, il n'hésitera même pas. Mon cousin se brûlera la cervelle ou provoquera mon mari. Ah, je suis dans l'enfer. Et elle dit cette phrase avec un calme effrayant. Adolphe est tenu fort sévèrement. Son père et sa mère lui donnent peu d'argent pour son entretien. Ma mère n'a pas la disposition de sa fortune, et de mon côté, moi, je ne possède rien. Cependant, entre nous trois, nous avons trouvé 4 000 francs. Les voici, dit-elle en tirant de son corset des billets de banque et me les présentant. Eh bien, madame, lui demandai-je. Eh bien, monsieur, reprit-elle en paraissant étonnée de ma question. Je viens vous supplier de sauver l'honneur de 2 familles, la vie de 3 personnes et celle de ma mère aux dépens de mon malheureux enfant. N'achevez pas, lui dis-je avec sang-froid. J'allais prendre mon code. Voyez, madame, repris-je en montrant une page qu'elle n'avait sans doute pas lue. Vous m'enverriez à l'échafaud. Vous me proposez un crime que la loi punit de mort, et vous seriez vous-même condamné à une peine plus terrible peut-être que ne l'est la mienne. Mais, oh, la justice ne serait pas si sévère que je ne pratiquerais pas une opération de ce genre. Elle est presque toujours un double assassinat, car il est rare que la mère ne périsse pas aussi. Vous pouvez prendre un meilleur parti. Pourquoi ne fuyez-vous pas? Allez en pays étranger. Je serai déshonoré. Elle me fit encore quelques instances, mais doucement et avec un sourd accent de désespoir, et je la renvoyai. Le surlendemain, vers 8 heures du matin, elle revint. En la voyant entrer dans mon cabinet, je lui fis un signe de dénégation très péremptoire, mais elle se jeta si vivement à mes genoux que je ne pus l'en empêcher. « Tenez, s'écria-t-elle, voici 10 000 francs. »« Eh, madame, répondis-je, 100 000, 1 million même ne me convertiraient pas au crime. Si je vous promettais mon secours dans un moment de faiblesse, plus tard, au moment d'agir, la raison me reviendrait et je manquerais à ma parole. Ainsi, retirez-vous. » Elle se releva, s'assit et fondit en larmes. « Je suis morte, s'écria-t-elle. Mon mari revient demain. » Elle tomba dans une espèce d'engourdissement, et puis, après 7 ou 8 minutes de silence, elle me jeta un regard suppliant. Je détournai les yeux. Elle me dit « Adieu, monsieur !» et disparut. Cet horrible poème de mélancolie m'empressa pendant toute la journée. J'avais toujours devant moi cette femme pâle et je lisais toujours les pensées écrites dans son dernier regard. Le soir, au moment où j'allais me coucher, une vieille femme en haillons et qui sentait la boue des rues me remit une lettre écrite sur une feuille de papier gras et jaune. Les caractères mal tracés se lisaient à peine, et il y avait de l'horreur et dans ce message et dans la messagère. J'ai été massacré par le chirurgien malhabile d'une maison de prostitution, car je n'ai trouvé de pitié que là, mais je suis perdu. Une hémorragie affreuse a été la suite de cet acte de désespoir. Je suis sous le nom de Madame Lebrun, à l'hôtel de Picardie, rue de Seine. Le mal est fait. Aurez-vous maintenant le courage de venir me visiter et de voir s'il y a pour moi quelque chance de conserver la vie ? Écouterez-vous mieux une mourante ? Un frisson de fièvre passa sur ma colonne vertébrale. Je jetai la lettre au feu, puis me couchai, mais je ne dormis pas. Je répétai 20 fois et presque mécaniquement « Oh la malheureuse, oh la malheureuse !» Le lendemain, après avoir fait toutes mes visites, j'allais, conduit par une sorte de fascination, jusqu'à l'hôtel que la jeune femme m'avait indiqué. Sous prétexte de chercher quelqu'un dont je ne savais pas exactement l'adresse, je pris avec prudence des informations et le portier me dit « Non, monsieur, nous n'avons personne de ce nom-là. Hier, où il est bienvenu une jeune femme, elle ne restera pas longtemps ici. Elle est morte ce matin à midi. » Je sortis avec précipitation et j'emportai dans mon cœur un souvenir éternel de tristesse et de terreur. Je vois passer peu de corbillards seuls et sans parents à travers Paris, sans penser à cette aventure, et chaque fois j'y découvre de nouvelles sources d'intérêt. C'est un drame à 5 personnages dont, pour moi, les destinées inconnues se dénouent de 1000 manières et qui m'occupent souvent, pendant des heures entières. Nous restâmes silencieux. Le docteur avait conté cette histoire avec un accent si pénétrant, ses gestes furent si pittoresques et sa diction si vive, que nous vîmes successivement et l'héroïsme et le char des pauvres conduits par les croque-morts allant au trot vers le cimetière. Pendant la campagne de 1812, nous dit alors un colonel d'artillerie, j'ai été comme le docteur, le témoin ou plutôt la cause involontaire d'un malheur qui a beaucoup d'analogie avec celui dont il vient de nous parler. Il s'agit aussi d'une femme mariée, mais si le résultat est à peu près le même, il existe entre les deux faits de notables différences. Lorsque nous arrivâmes à la Bérésina, il n'y avait plus, comme vous le savez, ni discipline ni obéissance militaire. Tous les rangs étaient confondus à l'armée. L'armée n'était même plus qu'un ramas d'hommes de toute nation qui allait instinctivement du nord au midi. Les soldats chassaient de leur foyer un général en haillons et pieds nus quand il n'apportait ni bois ni vivres. Après le passage de cette célèbre rivière, le désordre ne fut pas moindre. Je sortais tranquillement, tout seul, sans vivres, sans argent, des marais de Zembin, et j'allais cherchant une maison où il voulait bien me recevoir. N'en trouvant pas, ou chassé de celle que je rencontrais, j'aperçus heureusement, vers le soir, une mauvaise petite ferme de Pologne, dont rien ne pourrait vous donner une idée, à moins que vous n'ayez vu les maisons de bois de la basse Normandie, ou les plus pauvres métairies de la Bretagne. Ces habitations consistent en une seule chambre partagée dans un bout par une cloison en planche, et la plus petite pièce sert de magasin à fourrage. L'obscurité du crépuscule ne permettait de voir de loin une légère fumée qui s'échappait de cette maison. Espérant y trouver des camarades plus compatissants que ceux auxquels je m'étais adressé jusqu'alors, je marchais courageusement jusqu'à la ferme. En y entrant, je trouvai la table mise. Plusieurs officiers, parmi lesquels une femme, spectacle assez ordinaire, mangeaient des pommes de terre, de la chair de cheval grillée sur des charbons et des betteraves gelées. Je reconnus parmi les convives deux ou trois capitaines d'artillerie du 1er régiment dans lequel j'avais servi. Je fus accueilli par un hourra d'acclamations qui m'aurait fort étonné de l'autre côté de la Bérézina, mais en ce moment le froid était moins immense. Mes camarades se reposaient, ils avaient chaud, ils mangeaient, et la salle jonchée de bottes de paille leur offrait la perspective d'un bon coucher, d'une nuit de délices. Nous n'en demandions pas tant alors. Ils pouvaient être philanthropes sans danger. Je me mis à manger en m'asseyant sur une botte de fourrage. Au bout de la table, du côté de la porte par laquelle on communiquait avec la petite pièce pleine de paille et de foin, se trouvait mon ancien colonel, un des hommes les plus extraordinaires que j'ai jamais rencontrés dans tout le ramassis d'hommes qu'il m'a été permis de voir. Il était italien. Or, toutes les fois que la nature humaine est belle dans les contrées méridionales, alors elle est sublime. Je ne sais si vous avez remarqué la singulière blancheur des Italiens quand ils sont blancs. Ben, cela est bien vrai, s'écria une dame. Les cheveux noirs et bouclés d'une tête italienne en font valoir le teint, et il y a dans ce caractère de la beauté transalpine je ne sais quelle perfection inexplicable. Bien, ma chère, dit la maîtresse du logis, allez, allez. L'imprudente interlocutrice rougit et se tut. Il y avait toute une révélation dans ce peu de paroles, dites avec une vivacité décente, qui peignait les profondes observations de l'amour. Nous regardâmes tous la jeune étourdie avec une malice douce, la malice d'artistes très indulgents de leur nature. Pour la tirer de peine, le narrateur reprit vivement. Lorsque je lus le fantastique portrait que Charles Nodier nous a tracé du colonel Houdet, j'ai retrouvé mes propres sensations dans chacune de ces phrases élégantes et passionnées. Italien, comme la plupart des officiers qui composaient son régiment, emprunté du reste par l'empereur à l'armée de Gênes, mon colonel était un homme de haute taille. Il avait bien 8 à 9 pouces, admirablement proportionné, un peu gros peut-être, mais d'une vigueur prodigieuse et leste, découplé comme un lévrier. Il avait des cheveux noirs à profusion, un teint blanc comme celui d'une femme, de petites mains, un joli pied, une bouche gracieuse, un nez aquilin, dont les lignes étaient minces et dont le bout se pinçait naturellement et blanchissait quand il était en colère, ce qui arrivait souvent, car il était d'une irascibilité qui passe toute croyance. Personne ne restait calme près de lui. Moi, je ne le craignais pas, mais uniquement parce qu'il m'avait pris dans une singulière amitié et que de moi il prenait tout en gré. Je l'ai vu dans des colères dont rien ne saurait donner l'idée. Alors son front se crispait et ses muscles dessinaient au milieu de son front un delta, ou pour mieux dire le fer à cheval de Red Gauntlet, qui tous terrifiaient encore plus peut-être que les éclairs magnétiques de ses yeux bleus. Tout son corps tressaillait et sa force était déjà si grande à l'état normal qu'elle devenait presque sans bornes. Il grasseyait beaucoup et sa voix, au moins aussi puissante que celle d'Ounet, jetait une incroyable richesse de son dans le syllabe ou dans la consonne sur laquelle tombait ce grasseillement. Si ce vice de prononciation était une grâce chez lui, dans certains moments, lorsqu'il commandait la manœuvre ou qu'il était ému, vous ne sauriez imaginer quelle sécurité de puissance exprimait cette accentuation si vulgaire à Paris. Ah, il faudrait l'avoir entendu. Lorsque le colonel était tranquille, ses yeux bleus peignaient une douceur angélique, son front pur avait une expression pleine de charme. À une parade, il n'y avait pas à l'armée d'Italie d'homme qui pût lutter avec lui. D'Orsay lui-même, le beau d'Orsay, fut vaincu par notre colonel lors de la dernière revue passée par Napoléon avant d'entrer en Russie. Tout était opposition chez cet homme privilégié. La passion vit par les contrastes. Aussi ne me demandez pas s'il exerçait sur les femmes ses irrésistibles influences auxquelles leur nature se plie comme la matière vitrifiable sous la canne du souffleur, mais par une singulière fatalité, un observateur se rendrait peut-être compte de ce phénomène. Il avait peu de femmes ou négligeait d'en avoir. Pour vous donner une idée de sa violence, je vais vous dire en deux mots ce que je lui ai vu faire dans un paroxysme de colère. Nous montions avec nos canons un chemin très étroit, bordé d'un côté par un talus assez haut et de l'autre par des bois. Au milieu du chemin, nous nous rencontrâmes avec un autre régiment d'artillerie, à la tête duquel était le colonel. Ce colonel veut faire reculer le capitaine de notre régiment, qui se trouvait en tête de la première batterie. Celui-ci s'y refuse. L'autre fait signe à la première batterie d'avancer, et malgré le soin que le conducteur mit à se jeter sur le bois, la roue du premier canon prit la jambe droite de notre capitaine et la lui brisa en le renversant de l'autre côté de son cheval. Tout cela fut l'affaire d'un moment. Notre colonel se trouvait à une faible distance. Il devina la querelle, accourut au grand galop en passant à travers les pièces et le bois au risque de se jeter les quatre fers en l'air, et arriva sur le terrain en face de l'autre colonel au moment où notre capitaine criait « À moi !» en tombant. Non, notre colonel italien n'était plus un homme. Il avait de l'écume à la bouche, il grondait comme un lion. Hors d'état de prononcer une parole et même un cri, il fit un signe effroyable à son antagoniste, en lui montrant le bois et tirant son sabre. Ils y entrèrent. En deux secondes, nous vîmes son adversaire à terre, la tête fendue en deux. Les autres reculèrent. « Ah, fils, très bon train !» Il faut vous dire que le capitaine que l'on avait manqué de tuer et qui jappait dans le bourbier, où la roue du canon l'avait jeté, avait pour femme une ravissante italienne de Messine, qui était la maîtresse de notre colonel. Cette circonstance avait augmenté sa fureur, car ce mari lui appartenait et faisait partie de son bagage, et il devait le défendre comme une chose à lui. Or, ce capitaine était en face de moi, dans la cabane où je reçus un si favorable accueil. Et sa femme se trouvait à l'autre bout de la table vis-à-vis du colonel. Elle se nommait Rosina. C'était une petite femme, fort brune, mais portant dans ses yeux noirs et fendus en amande toutes les ardeurs du soleil de la Sicile. Quoiqu'elle fût en ce moment dans un déplorable état de maigreur, qu'elle eut les joues couvertes de poussière comme un fruit exposé aux intempéries d'un grand chemin, qu'elle fut vêtue de haillons, fatiguée par les marches, que ses cheveux en désordre et collés ensemble fussent entièrement cachés sous un monceau de châle en marmotte, il y avait encore de la femme chez elle. Ses mouvements étaient jolis, sa bouche rose et chiffonnée, ses dents blanches, les formes de sa figure, sa gorge, attraits que la misère, le froid, l'incurie n'avaient pas tout à fait dénaturés, parlaient encore d'amour à qui pouvait penser à une femme. C'était du reste une de ces natures frêles en apparence, mais nerveuses, pleines de force et construites pour la passion. Le mari, gentilhomme piémontais, était petit. Sa figure annonçait une bonhomie goguenarde, s'il est permis d'allier ces deux mots. Courageux, instruit, il paraissait ignorer les liaisons qui existaient entre sa femme et le colonel depuis environ 2 ans. J'attribuais ce laisser-aller aux mœurs italiennes ou à quelques secrets de ménage, mais il y avait dans la physionomie de cet homme un trait qui m'inspirait toujours une involontaire défiance. Sa lèvre inférieure était mince et s'abaissait aux deux extrémités au lieu de se relever, ce qui me semblait trahir un fond de cruauté dans ce caractère en apparence flegmatique et paresseux. Vous devez bien imaginer que la conversation n'était pas très brillante lorsque j'arrivais. Mes camarades, fatigués, mangeaient en silence. Naturellement, ils me firent quelques questions et nous nous racontâmes nos malheurs tout en les entremêlant de réflexions sur la campagne, sur les généraux, sur leurs fautes, sur les Russes et sur le froid. Un moment après mon arrivée, le colonel, ayant fini son maigre repas, s'essuya les moustaches, nous souhaita le bonsoir, et jetant son regard à l'italienne, « Rosina !» lui dit-il. Puis, sans attendre sa réponse, il alla se coucher dans la petite grange au fourrage. Le sens de l'interpellation du colonel était facile à saisir. Aussi la jeune femme laissa-t-elle échapper un geste indescriptible qui peignait tout à la fois et la contrariété qu'elle devait éprouver à voir sa dépendance affichée sans aucun respect humain et l'offense faite à sa dignité de femme ou à son mari. Puis il y eut aussi, dans la crispation rapide des traits de son visage, dans le rapprochement violent de ses sourcils, une sorte de pressentiment. Elle eut peut-être une prévision de sa destinée. Rosina resta tranquillement à table. Mais un instant après, et vraisemblablement lorsque le colonel fut couché dans son lit de foin ou de paille, il répéta « Rosina !» L'accent de ce second appel fut encore plus brutalement interrogatif que ne l'avait été l'autre. Le grasseillement du colonel et le nombre que la langue italienne permet de donner aux voyelles et aux finales peignirent tout le despotisme, l'impatience, la volonté de cet homme. Rosina pâlit, mais elle se leva, passa derrière nous et rejoignit le colonel. Tous mes camarades gardèrent un profond silence, mais moi, malheureusement, je me mis à rire après les avoir regardés, et mon rire se répéta de bouche en bouche. « Tu ris ?» dit le mari. « Ma foi, mon camarade, lui répondis-je en redevenant sérieux, oui, j'avoue que j'ai eu tort, je te demande 1000 fois pardon, et si tu n'es pas content des excuses que je te fais, je suis prêt à te rendre raison. »« Mais ce n'est pas toi qui as tort, c'est moi, » reprit-il froidement. Là-dessus, nous nous couchâmes dans la salle et bientôt nous nous endormîmes tous d'un profond sommeil. Le lendemain, chacun, sans éveiller son voisin, sans chercher un compagnon de voyage, se mit en route à sa fantaisie avec cette espèce d'égoïsme qui a fait de notre déroute un des plus horribles drames de personnalité, de tristesse et d'horreur qui jamais se soit passé sous le ciel. Cependant, à 700 ou 800 pas de notre gîte, nous nous retrouvâmes presque tous et nous marchâmes ensemble comme des oies conduites en troupe par le despotisme aveugle d'un enfant. Une même nécessité nous poussait. Arrivés à un petit monticule d'où l'on pouvait encore apercevoir la ferme où nous avions passé la nuit, nous entendîmes des cris qui ressemblaient au rugissement des lions dans le désert, au mugissement des taureaux. Mais non, oh, cette clameur ne pouvait se comparer à rien de connu. Néanmoins, nous distinguâmes un faible cri de femme mêlé à cet horrible et sinistre râle. Nous nous retournâmes tous en proie à je ne sais quel sentiment de frayeur. Alors, nous ne vîmes plus la maison, mais un vaste bûcher. L'habitation était toute en flammes et des tourbillons de fumée enlevés par le vent nous apportaient et les sons rauques et je ne sais quelle vapeur forte. À quelques pas de nous marchait le capitaine. Il venait tranquillement se joindre à notre caravane. Nous le contemplâmes tous en silence, car nul n'osa l'interroger. Mais lui, devinant notre curiosité, tourna sur sa poitrine l'index de la main droite et de la gauche, montrant l'incendie. « Sonio, dit-il, c'est moi !» Nous continuâmes à marcher, sans lui faire une seule observation. « Mais toutes vos histoires sont épouvantables, dit la maîtresse du logis, et vous me causerez cette nuit des cauchemars affreux. Oh, vous devriez bien dissiper les impressions qu'elle nous laisse en nous racontant quelque histoire gaie, ajouta-t-elle en se tournant vers un homme gros et gras homme de beaucoup d'esprit qui devait partir pour l'Italie où l'appelait des fonctions diplomatiques. Volontiers, répondit-il. Madame de, reprit-il en souriant, la femme d'un ancien ministre de la marine sous Louis XVI, se trouvait au château de où j'avais été passer les vacances de l'année 1800. Elle était encore belle, malgré 38 ans avoués, et en dépit des malheurs qu'elle avait essuyés pendant la Révolution. Appartement à l'une des meilleures maisons de France, elle avait été élevée dans un couvent. Ses manières, pleines de noblesse et d'affabilité, étaient empreintes d'une grâce indéfinissable. Je n'ai connu qu'à elle une certaine manière de marcher qui imprimait autant de respect qu'elle inspirait de désir. Elle était grande, bien faite et pieuse. Il est facile d'imaginer l'effet qu'elle devait produire sur un petit garçon de 13 ans. C'était alors mon âge. Sans avoir précisément pour peur d'elle, je la regardais avec une inquiétude désireuse et avec de vagues émotions qui ressemblaient au tressaillement de la crainte. Un soir, par un de ces hasards dont il est difficile de rendre compte, 7 ou 8 des dames qui habitaient le château se trouvèrent seules, sur les 11 heures du soir, devant un de ces feux qui ne sont ni pétillants ni éteints, mais dont la chaleur moite dispose peut-être à une causerie plus intime, en communiquant aux fibres une sorte d'épanouissement qui les béatifie. Madame de jeta un regard d'espion sur les hauts lambris et les vieilles tapisseries de l'immense salon. Ses grands yeux noirs tombèrent sur un coin passablement obscur où j'étais tapi derrière une duchesse aux pieds contournés. Ce fut comme un regard de feu, mais elle ne me vit pas. J'étais resté coi en attendant ces dames raconter de sotte voce des histoires auxquelles je ne comprenais rien, mais les rires de bon aloi qui terminaient chaque narration avaient piqué ma curiosité d'enfant. « À votre tour, » avaient dit en chœur les châtelaines à Madame de « Allons, contez-nous comment. Elle conservait peut-être une vague inquiétude de m'avoir vu jouant auprès d'elle. Elle se leva comme pour faire le tour du meuble, énorme, derrière lequel j'étais tapi. Mais une vieille dame, plus impatiente que les autres, lui prit la main en lui disant « Le petit est couché, ma chère. D'ailleurs, voudriez-vous paraître plus prude que nous ?» Alors la belle dame de toussa, ses yeux se baissèrent soudain, et elle commença ainsi. J'étais au couvent de, et je devais en sortir au bout de 3 jours, pour épouser monsieur le comte de F, mon mari. Mon bonheur fut envié par quelques-unes de mes compagnes, et il donnait lieu pour la 20e fois à des conjectures que je vous épargne, puisque d'après vos récits, vous en êtes toutes occupées en temps et lieu. 3 jeunes personnes de mon âge et moi, qui ne pouvions pas faire ensemble 70 ans, étions groupées devant la fenêtre d'un corridor d'où l'on voyait ce qui se passait dans la cour du couvent. Depuis 1 heure environ, nos jeunes imaginations avaient cultivé le champ des suppositions d'une manière si folle et si innocente, je vous jure, qu'il nous était impossible de déterminer en quoi consistait le mariage. Mes idées étaient même devenues si vagues que je ne savais plus sur quoi les fixer. Une sœur de 30 à 40 ans, qui nous avait prises en amitié, vint à passer. C'était, autant que je me le rappelle, la fille d'un campagnard fort riche. Elle avait été mise au couvent dès sa jeunesse, soit pour avantager son frère, soit à cause d'une aventure qu'elle ne racontait qu'à son honneur et gloire. Mademoiselle de Langeac, qui était plus libre qu'aucune de nous avec elle, l'arrêta et lui exposa assez nettement le danger qu'il pouvait y avoir pour moi d'ignorer les conditions de la nature humaine. La religieuse avisa dans la cour un maudit animal qui revenait du marché et qui, dans le moment, par la fierté de son allure, la puissance de développement de tout son être, formait la plus brillante définition du mariage que l'on pût donner. Là, le groupe féminin se rapprocha. Madame de parla à voix basse, les dames chuchotèrent, et tous les yeux brillèrent comme des étoiles, mais je ne pus entendre de la réponse de la religieuse que 2 mots latins employés par la belle dame et qui étaient, je crois, « ecce homo ». À cet aspect, reprit Madame de, dont la voix remonta insensiblement au diapason doux et clair qui avait donné le ton au juvénile, confidence de ces dames, je manquais de me trouver mal. Je pâlis en regardant Mademoiselle de Flerne, que j'aimais beaucoup, et la terreur que j'ai ressentie depuis en pensant au jour où je devais monter sur l'échafaud n'est pas comparable à celle dont je fus la proie en songeant à la première nuit de mes noces. Je croyais être faite autrement que toutes les femmes. Je n'osais parler à ma mère. Je regardais le comte avec un curieux effroi sans en être plus instruite. Je ne vous dirai pas toutes les pensées martyrisantes dont je fus assailli. L'idée d'un pareil supplice a été jusqu'à me faire rester la veille de mon mariage, à tenir pendant environ 1 heure le bouton d'oreille qui suivait à ouvrir la porte de la chambre où dormait ma mère, sans pouvoir me décider à entrer, à la réveiller et à lui faire part de l'impression où me mettait la nature d'être femme un jour. Bref, je fus menée plus morte que vive dans la chambre nuptiale. Ici, Madame de ne put s'empêcher de sourire, et elle ajouta, non sans quelque mine de Sainte-Nitouche, « Mais j'ai vu que tout ce que Dieu a fait, bien fait, et que la pauvre bécasse de religieuse avait essayé comme garrot de mettre des citrouilles à un chêne. « Oh, monsieur, dit une jeune dame, si vos histoires gaies commencent ainsi, comment finiront-elles ? Oh, monsieur n'a jamais rien pu compter sans y mettre un trait un peu trop vif, et vraiment je le redoute. J'espère toujours qu'il s'est corrigé. Mais où est le mal ? Demanda naïvement le narrateur. Aujourd'hui, vous voulez rire et vous ne vous interdisez toutes les ressources de la gaieté, franche qui faisait les délices de nos ancêtres. Ôtez les tromperies de femmes, les ruses de moines, les aventures un peu braineuses de Verville et de Rabelais. Où sera le rire ? Vous avez remplacé cette poétique par celle des calembours d'Odery. Est-ce un progrès ? Aujourd'hui, nous n'osons plus rien. À peine une honnête femme permettrait-elle à son amant de lui raconter la bonne histoire du cocher de fiacre, disant à une dame « Voulez-vous trinquer ?» Il n'y a rien de possible avec des mœurs aussi tacitement libertines. Car je trouve vos pièces de théâtre et vos romans plus gravement indécents que la crudité de Brantôme, chez lequel il n'y a ni arrière-pensée ni préméditation. Le jour où nous avons donné de la chasteté au langage, les mœurs avaient perdu la leur. « La philanthropie a ruiné le comte, » reprit un vieillard. « Comment ? » dit la dame d'un peintre. « Ben pour qu'un comte soit bon, il faut toujours qu'il vous fasse rire d'un malheur, » répondit-il. « Oh, paradoxe !» s'écria un journaliste. « Aujourd'hui, » reprit le vieillard en souriant, « les sots se servent trop souvent de ce mot-là quand ils ne peuvent pas répondre pour qu'un homme d'esprit l'emploie. » Il y eut un moment de silence. « Autrefois, » dit le vieillard, « les gens riches se faisaient enterrer dans les églises. Alors il y avait un intervalle entre l'enterrement réel et le convoi, parce que la tombe n'était pas toujours prête à recevoir le mort. Cet inconvénient avait obligé les curés de Paris à faire garder pendant un certain temps les cercueils dans une chapelle où se trouvait un sépulcre postiche. C'était en quelque sorte un vestibule où les morts attendaient. Il y avait un prêtre de garde près de la chapelle mortuaire et les familles payaient les prières de surérogation qui se disaient pendant la nuit ou pendant le jour, qui s'écoulaient entre l'enterrement factice et l'inhumation définitive. Excusez-moi de vous donner ces détails, mais aujourd'hui, pour beaucoup de personnes, ils sont de l'histoire. Un pauvre prêtre, nouveau venu à Saint-Sulpice, débuta dans l'emploi de garder les morts. Un vieux maître des requêtes de l'autel avait été enterré le matin. Au commencement de la nuit, le prêtre de province fut installé dans la chapelle et chargé de dire les prières à la lueur des cierges. Le voilà seul au coin d'un pilier dans cette grande église. Il dit un psaume et quand le psaume est fini, pam, pam, il entend trois petits coups frappés faiblement. Les oreilles lui tintent, il regarde la voûte, les dalles, les piliers, et finit par croire que ses confrères veulent lui jouer quelques tours, comme cela se fait dans les couvents pour les novices. Alors il se remet à dépêcher un autre psaume, et de verset en verset, pam, pam, pam. Le prêtre répondit, « Ouais, ouais, frappe, je t'en casse !» Enfin, les coups diminuèrent et ne se firent plus entendre que de loin à loin. Vers le matin, un vieux prêtre va relever de faction le débutant. Celui-ci lui donne le livre, la chaise et s'en va. « Pom, 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 mais qu'est-ce que c'est que ça ?» demanda le vieux prêtre. « Oh, c'est rien, » répondit le nouveau. « C'est le mort qui a un tic. »« Je croirais volontiers que ce mot est vrai, » dit un professeur d'histoire. Il est saturé de cet esprit rustique et précieux chez les vieux auteurs, et qui se retrouve souvent peut-être chez le paysan. Ce prêtre venait en deçà la Loire. Le villageois est une nature admirable. Quand il est bête, il va de pair avec l'animal, mais quand il a des qualités, elles sont exquises. Malheureusement, personne ne l'observe. Oh, il a fallu je ne sais quel hasard pour que Goldsmith ait fait le vicaire de Wakefield. Oh, si la vie campagnard et paysanne attend un historien. Votre observation me rappelle, dit un ancien fonctionnaire impérial, un trait qui peut servir de preuve à votre opinion. Il donne tout à fait l'idée d'un homme trempé comme devait être le paysan du Danube. En 1813, lors des dernières levées d'hommes dont Napoléon eut besoin, et que les préfets firent avec une rigueur qui contribua peut-être à la première chute de l'Empire, le fils d'un pauvre métayer des environs d'une ville que je ne vous nommerai pas, car ce serait vous désigner le préfet, refusa de partir et disparut. Les premières sommations exécutées, l'on en vint aux mesures de rigueur contre le père et la mère. Enfin, un matin, le préfet, ennuyé de voir cette affaire traîner en longueur, mande le père devant lui. Le paysan vint à la préfecture, et là, le secrétaire général d'abord, puis le préfet lui-même, essayèrent par des paroles de persuasion de convertir à l'évangile impérial le père du réfractaire et de lui arracher le secret de la retraite où son fils était caché. Ils échouèrent contre le système de dénégation dans lequel les paysans se renferment avec l'instinct de l'huître qui défie ses agresseurs à l'abri de sa rude écaille. Des douceurs, le préfet et son secrétaire passèrent aux menaces, et ils se mirent très sérieusement en colère et rudoyèrent le pauvre homme qui les regardait avec un grand flegme en tortillant son chapeau à bord rabattu. « Non, nous saurons bien te faire retrouver ton fils, » disait le secrétaire. « Je le voudrais bien, monseigneur, » répondait le paysan. « Mais il me le faut, mort ou vif, » s'écria le préfet, en forme de conclusion. Là-dessus, le père s'en revint désolé chez lui, car il ne savait réellement pas où était son fils, et il se doutait bien de ce qui allait arriver. En effet, le lendemain, il vit dès le matin, en allant au champ, le chapeau bordé d'un gendarme qui galopait le long des haies et que le préfet envoyait chez lui jusqu'à ce que le réfractaire se fût retrouvé. Il va loger chez moi. Il fallut donc chauffer, blanchir, éclairer le garnissaire et le nourrir, son cheval et lui. Le paysan y mangea ses économies, vendit la croix d'or, les boucles d'oreilles de souliers, les agrafes d'argent et les hardes de sa femme, puis un champ qu'il avait et enfin sa maison. Avant de vendre la maison et le morceau de terre dont elle était environnée, il y eut une horrible dispute entre la femme et le mari. Celui-ci prétendait qu'elle savait où était son fils. Le gendarme fut obligé de mettre le holà au moment où le paysan s'emporta, car il avait pris son sabot pour le jeter à la tête de sa femme. Depuis cette soirée, le garnisaire, ayant pitié de ces deux malheureux, menait son cheval paître le long des chemins et dans les prés communaux. Quelques voisins se cotisèrent pour lui fournir de l'avoine et de la paille. La plupart du temps, le gendarme achetait de la viande et l'on s'entendait pour soutenir ce pauvre ménage. Le paysan avait parlé de se pendre. Enfin, un jour qu'il fallait du bois pour cuire le dîner du gendarme, le père du réfractaire était allé dès le matin dans une forêt voisine pour ramasser des branches mortes et faire provision de bois. À la nuit, il aperçut dans un fourré, près des habitations, une masse blanche. Ayant été voir ce que cela pouvait être, il reconnut son fils. Il était mort de faim et avait encore entre les dents l'herbe qu'il avait essayé de manger. Le paysan chargea son enfant sur ses épaules et, sans le montrer à personne, sans rien dire, il le porta pendant 3 lieues. Il arriva à la préfecture, sans qui où était le préfet, et apprenant qu'il était au bal, il l'attendit, et quand celui-ci rentra sur les 2 heures du matin, il trouva le paysan à la porte qui lui dit « Vous avez voulu mon fils, monsieur le préfet, le voilà !» Il mit le cadavre contre le mur et s'enfuit. Maintenant, lui et sa femme mendient leur pain.